On est par téléphone avec Saïd Bouamama, sociologue, militant antiraciste et membre du Front uni des immigrations et des quartiers populaires, organisation qui appelle à un rassemblement ce samedi 12 décembre à Lille, rassemblement contre la loi dite séparatisme, hein, le projet de loi confortant les principes républicains, c'est son nouveau nom. Alors de quoi on parle? Je vous propose de lire d'abord un extrait du dossier de presse, hein, qui présente cette loi sur le site du gouvernement. Au cours de ces 20 dernières années, la République, par naïveté ou par faiblesse, a trop souvent fermé les yeux sur un islamisme radical qui gagnait chaque jour du terrain. Un homme qui refuse de serrer la main d'une préfète parce que c'est une femme, des enfants qui sont retirés de l'école de la République pour une éducation communautariste, des associations sportives qui mènent des activités prosélytes, des médecins qui délivrent des certificats de virginité, des associations cultuelles qui deviennent le relais d'influences étrangères hostiles aux valeurs de la République. Alors Saïd Bouamama, le ton est donné au travers de ce texte?
Absolument, il suffit d'être attentif à ce que vous venez de lire pour s'apercevoir que tout l'ensemble du texte de loi est sous-tendu par l'idée de diffuser de la peur. Nous serions devant un péril catastrophiste qui s'est installé parce que nous aurions été trop gentils, aveugles, trop prudents, etc. Cette politique de la peur, elle cite toute une série de choses qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qu'elle amalgame sous le titre d'islamisme, et donc elle donne vraiment l'impression d'un péril contre lequel il faudrait accepter des remises en cause de liberté qui ont été acquises par des luttes sociales. Et donc on a là vraiment une démarche qui consiste à diffuser de la peur pour justifier des orientations précises. Et donc on a un projet qui est particulièrement dangereux, parce qu'en diffusant de la peur en termes politiques, c'est toujours une catastrophe qui s'annonce.
En même temps, le pays a connu une vague d'attentats. L'intégrisme, c'est quelque chose qui existe, hein. Les intégrismes, catholiques, musulmans, protestants, où il y a différentes idéologies, est-ce qu'il ne faut pas quand même lutter contre ça? Est-ce que la gauche n'a pas eu tendance à minimiser ces problèmes ces dernières années?
Alors qu'il faille lutter contre le terrorisme et contre des passages à l'acte qui détruisent des vies humaines uniquement pour défendre un fanatisme, bien entendu, qui serait contre cela. Ceci dit, vous avez souligné qu'il y a des intégrismes dans notre pays. Or, lorsqu'on a un projet de loi qui se met en place en ciblant une communauté et une religion particulière, je rappelle que M. Darmanin, le 5 octobre, disait à la presse que les catholiques n'ont rien à craindre de ce projet de loi. Donc on a d'un côté, on nous parle des catholiques, autrement dit, d'autres religions auraient à craindre. Derrière le mot islamisme, en réalité, ce qui est attaqué ici, ce sont tous nos concitoyens, musulmans ou supposés tels, et en ciblant sur une communauté, une religion, on est sur une politique de clivage. Secondo, lutter contre le danger terroriste, ça supposerait d'abord de s'attaquer aux causes et de poser la question des causes. Or, tous les travaux en sciences sociales soulignent au moins deux types de causes. Le premier type de cause, c'est les dimensions qui renvoient aux politiques internationales de la République française, et en particulier à la multiplication des interventions militaires de la France à l'extérieur, et qui a effectivement comme effet de pouvoir susciter des vocations terroristes. Alors, si on ne parle pas de causes, on ne peut pas comprendre pourquoi la France est particulièrement ciblée au niveau de ses attentats. Et secondo, et surtout, en ce qui concerne mon association, nous pensons que c'est cette seconde dimension qui est essentielle, il faut se poser la question de pourquoi des jeunes qui ont grandi ici, qui sont nés ici, qui ont été socialisés en France, qui sont à un âge où ils devraient penser à leur vie, penser à leur amour, etc. Comment se fait-il que des jeunes de ce type-là en arrivent à penser à se tuer en tuant? Autrement dit, se poser la question des conditions d'existence de toute une partie de notre jeunesse aujourd'hui et des conditions d'espoir en l'avenir qu'a cette jeunesse. Mais bien entendu, on ne veut pas parler de ces causes parce que d'une part, la première remet en cause les politiques internationales coloniales et guerrières de l'État français, et la seconde interroge les politiques néolibérales de paupérisation, de précarisation, qui ont amené une augmentation de la polarisation de la cité française entre une extrême minorité qui s'enrichit et des quartiers populaires qui sont en voie de paupérisation et de tiers-mondisation, avec au milieu toute une partie de la population qui est dans une opération de déclassement. Autrement dit, tout le monde aujourd'hui, à part une extrême minorité, est en voie de paupérisation, et parmi les paupérisés, il y a ceux qui, dans les quartiers populaires, sont encore plus attaqués. Et donc, on ne veut pas parler des causes, parce que ça remet en cause les politiques économiques et les politiques géostratégiques de l'État français, et donc pour détourner l'attention, on a besoin de cibler sur une partie de la population, d'où cette idée d'une menace islamiste inexplicable qui ne peut venir que d'individus à surveiller.
Saïd Bouamama, ce projet de loi, il intervient aussi dans un contexte politique et celui de présidentielle approchante. On a l'impression, avec aussi ce projet de loi, celui sur la sécurité globale, aussi la loi de programmation de la recherche, on a l'impression que là, c'est barre à droite toute pour Macron.
Absolument, absolument. En réalité, on est aujourd'hui sur une stratégie de préparation des présidentielles. Le timing du projet de loi est d'ailleurs très explicite, puisque un gouvernement qui nous a habitués à aller très vite dans ces pseudo-réformes, qui sont en fait l'imposition du néolibéralisme, nous dit que pour ce projet de loi sur le séparatisme, eh bien, il va falloir en débattre longuement et que le vote définitif est prévu pour la fin de l'année 2021. Autrement dit, juste avant les présidentielles, on nous prépare une scène médiatique et politique dans laquelle la question de l'islam, la question du danger musulman, la question du péril islamiste serait au centre du débat politique. Alors, au moment même où on a un gouvernement qui est délégitimé, où on a une crise de légitimité sans précédent depuis le mouvement des Gilets jaunes, puis le mouvement contre la réforme de retraite, puis le mouvement contre les violences policières, puis aujourd'hui les vastes mobilisations contre la loi sûreté globale, eh bien, cette crise de légitimité, eh bien, on veut la masquer, on veut l'enlever. C'est le premier point de l'agenda des personnes, leurs conditions d'existence et leurs conditions politiques, pour imposer un autre débat qui est celui du danger islamiste. En réalité, ce qu'il y a derrière, c'est une préparation du champ politique pour une présidentielle binaire, avec un choix imposé entre Macron et Marine Le Pen. En centrant le débat sur un pseudo-péril, on essaye de nous préparer tout au long de l'année 2021 à l'idée que nous aurions une présidentielle qui ne peut se contenter que de faire barrage à l'extrême droite. Cela passe par imposer ce débat sur l'islam, avec d'un côté un gouvernement qui se présenterait comme ferme par rapport à la menace islamiste, mais qui aurait quand même un vernis républicain, et vis-à-vis duquel il faudrait, pour éviter la politique du pire, éviter le Rassemblement national, voter quand même Macron. C'est la dernière possibilité pour ce pouvoir d'être réélu face à une crise de légitimité sans précédent. En réalité, jamais un gouvernement depuis très longtemps n'a été aussi critiqué. La révolte sociale gronde partout. Alors, il y a celle que l'on voit dans les manifestations. Le déconfinement a montré que la colère n'avait pas baissé. Ce sont des dizaines de milliers de personnes que l'on voit sur chacun des objets aujourd'hui. Et d'un autre côté, dans les quartiers populaires, la pauvreté qui s'est imposée au moment du confinement, c'est parce que le confinement est venu aggraver une situation qui était déjà grave, eh bien on a des quartiers populaires qui sont eux aussi au bord de l'explosion sociale. Éviter toute convergence entre tous ces mouvements, imposer un autre débat, c'est l'origine de cette loi.
Vous parliez de vernis républicain, ça passe aussi par un vocabulaire et un vocable adapté, voire adaptable. Là, on ne parle plus de communautarisme et de séparatisme, mais là encore, ce mot-là a disparu du titre, en tout cas du projet de loi. On a l'impression qu'il y a une idéologie vraiment droitière, mais avec un vocabulaire différent.
Oui, absolument. On a un gouvernement de communicants. En réalité, on a là ce gouvernement, ce qui le distingue d'autres gouvernements précédemment, c'est que on a affaire à véritablement l'avant-garde néolibérale, celle qui, dans les start-up, dans les grandes entreprises, a opéré le tournant de ces dernières années, et il gère l'État comme on gère une multinationale aujourd'hui, et la politique de communication est pour eux une dimension essentielle. Alors, ça passe par une bataille du vocabulaire qui renvoie à l'idée que certains mots doivent être vidés de leur véritable sens pour le remplacer par un autre sens. C'est l'exemple du terme laïcité, qui a une définition historique qui est la séparation de l'Église et de l'État et la non-ingérence de l'État dans le culte et la reconnaissance d'aucun culte. Ça passe de cette définition historique à une politique qui est de considérer la laïcité comme étant une valeur qui s'ajouterait aux valeurs de liberté, égalité, fraternité, et donc une laïcité offensive contre une religion qui est considérée comme allergique aux principes républicains. Ça passe aussi par imposer dans les débats politiques de nouveaux termes, comme le terme séparatisme. Alors, ces termes sont utilisés et abandonnés en fonction du rapport de force. Le terme séparatisme qui a été utilisé est un terme qui renvoyait quand même à des dimensions historiques qui n'étaient pas petites, puisqu'on a accusé les Juifs dans le passé de séparatisme. L'antisémitisme historique s'est basé sur l'idée de séparatisme. On a également eu, au moment de la guerre froide, l'accusation des communistes qui étaient séparatistes et qui, en réalité, obéissaient soi-disant à Moscou et donc étaient séparatistes pour la République. Et aujourd'hui, c'est la question des musulmans. Donc la bataille du vocabulaire n'est pas une bataille secondaire. C'est une bataille qui, accepter un mot, c'est accepter les conséquences de ce mot. Dire qu'aujourd'hui il y a danger séparatiste en France, c'est inévitablement, si on est cohérent, accepter qu'il faille combattre le séparatisme. Et donc, imposer des mots, ça fait partie des luttes sociales aujourd'hui.
Saïd Bouamama, ce samedi au rassemblement auquel vous vous appelez, il y aura beaucoup de monde, beaucoup de membres des associations qui ont signé l'appel, des associations multiculturelles, des collectifs de sans-papiers, des organisations syndicales et politiques. Comment ce projet de loi est ressenti, selon vous, par les habitants? Et est-ce qu'il n'y a pas une forme de découragement aussi quand on voit arriver devant soi, finalement, au travers des écrans, les différents projets de loi plus réactionnaires les uns que les autres?
Alors, disons d'emblée que il ne faut pas crier victoire à l'avance. Il y a eu beaucoup de signatures sur notre appel, mais beaucoup de signatures ne signifient pas pour autant que nous aurons massivement les habitants des quartiers populaires. Aujourd'hui, dans la subjectivité des habitants des quartiers populaires, on a deux éléments qui se cumulent et qui sont en confrontation. On a un premier élément qui est la colère. De manière assez massive, dans les quartiers populaires, on considère ce projet comme un projet raciste, comme un projet écœurant, comme un projet qui appelle à la révolte. Donc on a unanimité, on a un consensus très large dans les quartiers populaires sur la signification de ce projet de loi. Par contre, ce sentiment-là voisine avec un autre, qui est le sentiment de peur. On a eu, nous, depuis qu'on a sorti l'appel, de multiples témoignages sur notre page Facebook, sur des mails qu'on nous a envoyés, etc., nous disant merci d'avoir brisé le silence, parce que effectivement, les grandes organisations ne disaient rien sur ce projet de loi sur le séparatisme. Tout était centré sur le projet de loi sur la sécurité globale, à laquelle nous participons également, mais rien n'était dit sur ce projet de loi sur le séparatisme. Donc il y a effectivement une peur dans les quartiers populaires. J'espère que les gens dépasseront leur peur et seront quand même là samedi, mais peu importe le nombre pour nous, l'important était justement de rappeler qu'on ne divise pas les combats pour les droits démocratiques et qu'à laisser les plus fragiles seuls, eh bien c'est l'ensemble du mouvement social qui serait perdant à la fin. Donc aujourd'hui, dans les quartiers populaires, on a à la fois de la peur et à la fois de la colère.
On était par téléphone avec Saïd Bouamama, sociologue, militant antiraciste et membre du Front uni des immigrations et des quartiers populaires, le Rassemblement contre la loi dite séparatisme. C'est demain, samedi 12 décembre à Lille, le rendez-vous Place de la République, parvis des droits de l'homme, c'est à 11h du matin.